France Inter, le 18-20.
Tramadol, morphine, oxycodone, vous connaissez ces noms si vous avez des douleurs qui ont du mal à être soulagées, vous savez parfaitement ce que sont les antalgiques opioïdes. Peut-être que vous avez pris en son temps du Diantalvic qui depuis a été retiré de la vente, mais qui à une époque a été beaucoup prescrit, remplacé d'ailleurs par le fameux Tramadol et on en parlera. Or, il se trouve que désormais les opioïdes sont une préoccupation majeure des autorités de santé parce que leur consommation ces 10 dernières années a crevé les plafonds, le mésusage aussi, si bien que les hospitalisations dues à une consommation trop importante, ont augmenté de 167% ces 10 dernières années. Les décès ont augmenté aussi de 146%. C'est la première cause d'overdose. Alors on n'en est pas du tout au niveau ahurissant des États-Unis, leurs 72 000 morts, imaginez ça. Mais attention, danger, ce qui amène plein de questions qui seront les vôtres ce soir. Sommes-nous très mal renseignés sur les effets secondaires, les risques d'accoutumance? Sommes-nous très mal renseignés sur les doses qui peuvent devenir dangereuses? Est-ce que finalement on traite mal la douleur? Est-ce que parce qu'on a mal, on prend de trop fortes doses? Comment surveiller mieux les dérapages tout en soulageant évidemment la douleur? Parlons-en ensemble au 01 45 24 7000.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Gérard, bonsoir, c'est vous le premier, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y Gérard, on vous écoute.
Donc voilà, bah moi c'est juste un témoignage. Disons, quand vous avez parlé du Tramadol, bah, ça m'a fait tiquer. Car au présumé, bah, j'avais eu une opération somme toute bénigne donc en juillet dernier. Et donc on m'avait prescrit ce fameux Tramadol et d'autres médicaments, mais surtout ce médicament-là, car les douleurs étaient intenses donc après l'opération. Donc au départ, effectivement, bon, j'ai pris ce médicament. Bon, j'avais quelques douleurs, mais bon, je pense que ce médicament les a réduits, mais par contre j'étais bien, j'étais toujours euphorique, je dormais presque plus des nuits, mais enfin j'étais vraiment bien, quoi. J'étais content, j'avais une pêche d'enfer. Et après je me suis dit, bah, les douleurs vont continuer, enfin, se sont calmées. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais arrêter ce médicament-là. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis plus de 2 mois à réussir à l'arrêter. Dès que je l'ai arrêté, bon, pendant une journée, ça allait bien. Et au bout d'une journée, c'était terrible, quoi. Disons, plus de, enfin, un cafard terrible, et une, enfin, j'étais plus du tout en forme, quoi. J'étais dans le canapé toute la journée, quoi, je pouvais plus rien faire. Et j'étais vraiment obligé de reprendre. Et un jour, j'ai quand même pris sur moi, j'ai mis plus d'une semaine à réussir à m'en débarrasser, quoi. C'était vraiment terrible.
Ça veut dire, Gérard, que pendant que vous le preniez, en tout cas dans cet état euphorisant que vous décriviez, à ce moment-là, vous n'avez pas mis votre état sur le compte du Tramadol, en fait?
Si, parce que après, quand je me suis dit, bon, j'ai plus de douleur, donc je vais plus le prendre, et c'est là, en l'arrêtant, que je me suis aperçu que j'en avais réellement besoin. Dès que je le prenais plus, au bout d'une journée, c'était terrible, quoi. J'avais un cafard, mais c'était une horreur.
C'était en l'arrêtant. Est-ce que vous avez appelé votre médecin pendant cette période d'entre-deux ou
pas? Non, parce que finalement, quand j'avais eu l'opération chirurgicale, on m'avait donné une ordonnance donc renouvelable sur 3 mois. Donc finalement, j'ai essayé de gérer par moi-même, mais bon, c'est très difficile, quoi. Et bon, des fois, enfin bon, ça m'est arrivé, enfin, de prendre des substances. Bon, j'ai jamais été dans cet état-là, quoi. Et vraiment, j'étais bien, quoi. Alors,
voilà. En tout cas, on entend que vous vous êtes sevré tout seul, Gérard, et ça, c'est tant mieux. Merci beaucoup pour votre témoignage qui nous fait une très jolie entrée en matière pour ce téléphone sonne, pour en discuter ensemble jusqu'à 20h. Delphine Wildry est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin spécialiste de la douleur, vous avez écrit ce qui n'a rien à voir, mais je le dis quand même, tout sur l'endométrie, c'est publié chez Odile Jacob. L'endométriose, ça vient de paraître, c'est chez Odile Jacob. Dominique Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Vous êtes loin de votre micro, Monsieur Martin, je vous le dis, voilà, là vous allez être beaucoup mieux. Intéressant le témoignage de Gérard. Delphine Wildry, il y a deux choses que je vois. D'abord, effectivement, il s'en rend compte tout seul, et donc le sevrage, il se fait tout seul, mais du coup, il est très seul, Gérard, en fait. Il comprend lui-même, il se redose tout seul, et il s'arrête tout seul.
Alors, on a sans doute un vrai problème dans l'éducation, qu'elle soit une éducation faite aux médecins, qui savent néanmoins un certain nombre de choses, mais qui peuvent en effet ne pas suivre ce type de difficultés que peuvent avoir certains patients en prenant des opioïdes. Soit dit en passant, juste ces opioïdes, on en sécrète de façon façon tout à fait naturelle. Et on peut avoir les mêmes problématiques en faisant de la course à pied tous les jours. On sécrète plein d'endomorphines et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer
c'est
de la course à
fatigant.
Pied.
C'est beaucoup plus fatigant.
Voilà, c'est plus fatigant, mais on est sur un mode, en effet, de dépendance qui existe avec tous les opioïdes, quels qu'ils soient, que ce soit des opioïdes faibles, que ce soit des opioïdes forts. Et on peut avoir ce type de réaction au niveau du cerveau, tant de dépendance physique que psychique, en effet.
Est-ce que ça veut dire qu'on est inégaux devant cet opioïde? Par exemple, moi, si j'en prends, je peux ne pas du tout avoir le même genre de réaction que celle que Gérard nous décrit, par exemple.
Absolument. On est totalement inégaux. D'abord, on est inégaux parce que les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes réactions au travers de ces opioïdes, du fait de nos hormones, que des patients qui ont été opérés...
Ça veut dire qu'on est plus sujet quand on est une femme qu'un homme?
Oui. En fait, les femmes ont physiologiquement un niveau de douleur qui est plus élevé. Quand on a une douleur, on la ressent plus en tant que femme qu'en tant qu'homme. C'est une histoire hormonale. Mm-hmm. Ensuite, on n'a pas tous la même vie. Et que plus on prend d'opioïdes dans notre vie, plus on se sensibilise aux opioïdes. Exemple, les patients qui sont opérés 10 fois seront plus sensibles aux opioïdes que ceux qui n'ont jamais été opérés.
Dominique Martin, dans ce que j'entends aussi du témoignage de Gérard, il y a l'idée que peut-être ça me manque effectivement, c'est ce que disait aussi Delphine Mullery, ça manque d'informations de la part du médecin avant. Voilà le spectre de ce qui peut vous arriver, et c'est peut-être important d'être sûr pour qu'on puisse ne serait-ce que reconnaître ce qui est en train de nous arriver au fur et à mesure, y compris le tas euphorisant que raconte Gérard, non ?
Oui, absolument. Alors d'abord, bravo à Gérard, puisqu'il s'en est sorti seul, c'est pas si simple.
Et finalement assez vite.
Mais c'est évidemment dommage du point de vue évidemment de la prise en charge et de la surveillance. Alors, on ne connaît pas l'histoire, mais on peut craindre plusieurs choses. Un, qu'il n'ait pas été averti des risques liés au tramadol, que peut-être même on ne lui a pas dit, et c'est souvent le cas que le tramadol était un opiacé, donc il faut bien avoir ça en tête. C'est un médicament qui est prescrit au moins une fois à plus de 6 millions de personnes en France, donc il est extrêmement utilisé, et on finit par oublier quand même que c'est un opiacé. Alors, un opiacé faible, ça n'est pas le fentanyl, ça n'est pas l'oxycodone, mais enfin, c'est un opiacé. Et comme
ça vient d'être dit... Mais c'est celui qui est prescrit, apparemment.
Voilà, 6 millions, c'est beaucoup. Il y a plus de 10 millions, 11 millions de personnes qui ont des opiacés faibles au moins une fois dans l'année. Et puis, on peut rajouter à peu près 1 million de personnes avec des opiacés forts. Donc, c'est des médicaments quand même qui sont très utilisés. Et il est évidemment important, et c'est la première des choses que le médecin doit faire, de dire que ce médicament étant un opiacé, comme ça vient d'être dit, il y a un risque de dépendance primaire. C'est-à-dire que, voilà, dès que vous en prenez, vous risquez d'être dans une situation de dépendance, comme ça a été le cas pour Gérard.
Est-ce qu'il y a un moyen, Dominique Martin, de repérer, de savoir que vous êtes un patient plus à risque, c'est-à-dire que vous avez plus de chances d'avoir ce genre de réaction? Est-ce que dès le deuxième ou le troisième jour de prise, je ne sais pas, on peut se dire attention danger, parce que là pour le coup j'ai de vrais symptômes, ça risque d'être compliqué après. Il y a moyen de savoir ça ou pas du tout?
Alors ça c'est une question qu'il faut poser donc peut-être au médecin, il y a peut-être des éléments, mais en tout cas dans tous les cas au minimum, à partir du moment, et je prends les choses à l'envers, à partir du moment où on prescrit un opiacé, on doit être attentif à ce risque. Les risques des opiacés, c'est d'abord le risque de dépendance tel qu'il vient d'être parfaitement décrit. C'est aussi le risque de mésusage. On peut continuer parce qu'il y a un effet psychotrope. Vous avez 65 ans, vous avez de l'arthrose, c'est pas désagréable de plus avoir mal.
Subitement, vous courez comme un lapin, je comprends.
Vous trouvez la vie sympa et tout ça. Et donc, il y a un risque de mésusage, ça peut durer longtemps. Il peut même y avoir des risques accidentels, y compris pour des enfants, par exemple. Donc, il faut faire quand même très attention. Donc, l'encadrement, l'information et la non-banalisation du traitement, et quelque chose de très important. Donc ça, c'est un accompagnement qui est indispensable. Et d'ailleurs, on a mis en place des contrôles. Aujourd'hui, tous les opiacés sont sur ordonnance médicale. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à 2017, puisque les codéines pouvaient ne pas être sur ordonnance. Aujourd'hui, tous les opiacés sont sur ordonnance médicale. Et s'ils sont sur ordonnance, c'est bien parce qu'on estime qu'ils doivent être accompagnés d'un acte médical, et le premier acte médical, enfin l'importance de l'acte médical, c'est le conseil.
Et justement, c'est le sens de la question de Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oh, bah moi, c'est pas vraiment une question, c'est qu'effectivement, alors moi j'ai pas eu de soucis de dépendance avec ce médicament, je l'ai pris pendant 5 jours. Par contre, ça m'a complètement shooté, comme si j'étais ivre toute la journée, et ça a duré pendant 5 jours. Le 4e jour, j'ai eu un gros trou noir du midi jusqu'au lendemain matin, aucun souvenir de ce qui s'est passé, de comment j'ai travaillé, de comment je suis rentré chez moi, avec qui j'ai mangé, mais alors aucun souvenir. Et le lendemain matin, j'ai repris ma journée de travail, et puis toujours un peu dans les vapes, et j'ai passé 2 doigts dans une toupie, une machine à bois, donc je me suis blessé... quand même assez gravement. Mmh. Ça aurait pu être bien pire, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Mais j'ai eu aucune information sur le. Alors sur la dépendance, non, mais c'était pas le plus grave, quoi. Mais c'est sur les effets secondaires, j'ai eu aucune info dessus, ni de la part du médecin urgentiste, parce que c'était aux urgences qu'on m'avait donné ce traitement-là. Ni après à la pharmacie ou quoi que ce soit. Quoi.
Et donc, même question à Gérard tout à l'heure, Sébastien, est-ce que du coup vous êtes allé voir votre médecin, vous avez demandé quelques explications ou savoir même si il fallait pas arrêter au bout de 3 jours, ou est-ce que finalement dans ces cas-là, comme Gérard tout à l'heure, vous êtes tout seul face à votre truc et puis vous attendez que ça passe, quoi?
Bah, on est un peu tout seul pour plusieurs raisons. D'abord parce que, bon, il y a le principe actif de la molécule qui fait qu'on est un peu shooté, hein, donc on pense pas... Voilà, on pense pas à tout. Moi, en aucun cas, j'ai fait le lien entre mon état et le médicament. J'ai pas du tout fait ce lien-là. Et puis, il y a l'autre problème, c'est que bah, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et on n'a pas de rendez-vous avant 1 semaine ou 10 jours. Donc, on a un petit peu toujours l'impression de les enquiquiner, pour être poli. Donc, effectivement, on reste un petit peu dans son coin et puis on attend que ça passe. Mais le lien entre mon état et le médicament, je ne l'ai pas fait, quoi.
Merci beaucoup, Sébastien. Delphine Mulry, c'était le même genre de question que je posais effectivement à Gérard. Oui. À quel moment on fait le lien? En fait, on comprend que l'état dans lequel on est, qui peut être dangereux là, parce que quand même, Sébastien s'est blessé au travail, alors visiblement pas gravement, enfin quand même. À quel moment on peut faire le lien? Et surtout, est-ce qu'on a cette capacité, en fait? Est-ce qu'on le sent vraiment, qu'il peut y avoir quelque chose où on se dit, ça, c'est pas pour moi ce que je suis en train de prendre, en fait.
En règle générale, oui. Parce qu'on parle dépendance qui, en effet, alerte nos instances et qui nous met en garde vis-à-vis des médicaments. Mais de mon point de vue de médecin, c'est pas le premier effet indésirable que la dépendance aux opioïdes. Cette dépendance, elle arrive. Alors, ce qui se passe quand on prend un opioïde, de facto, ça nous sensibilise en effet à la douleur et entraîne de devoir en toute théorie peut-être en prendre un peu plus pour la même douleur un peu plus tard. Ça, ce sont des mécanismes intrinsèques à notre organisme. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un opioïde, il y a un côté antidouleur et puis il y a un côté pro-algique, pro-douleur. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça, le terme de dépendance, il survient essentiellement dans des cas de surdosage et dans des cas, en effet, de mésusage où l'on prend trop longtemps un médicament. La plupart du temps, on a des effets indésirables tout à fait alertants dès le départ. La somnolence, comme l'expliquait très bien cet auditeur, les nausées, les vomissements, et en règle générale, et ça c'est aussi un message en effet, c'est vrai, à dire aux médecins, c'est que ce sont les premiers effets indésirables, ils doivent alerter, et à partir du moment où les patients se sentent trop somnolents, ils ne continuent pas le médicament.
Bonsoir Théophile, pardon.
Oui, bonsoir.
Allez-y Théophile, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions, merci pour votre voix si agréable le soir, qui m'accompagne tous les jours.
Formidable.
Alors oui, je suis jeune médecin généraliste en Normandie, là, donc dans un désert médical, et je pense que ça va faire écho à ce qu'on a entendu précédemment. Effectivement, je pense que un des problèmes, c'est le manque d'accompagnement des patients sous opioïdes au long cours ou même à court terme. Souvent, ce sont des médicaments qui sont initiés par des médecins urgentistes ou même des médecins remplaçants. Avec le problème des déserts médicaux, finalement, c'est pas les mêmes médecins finalement qui vont suivre le patient, et il va se retrouver avec une ordonnance de palier 2, palier 3, hein, donc c'est d'opioïdes, qui va traîner comme ça. Moi, en tant que médecin comme ça, faisant des remplacements, c'est pas à moi d'arrêter comme ça un médicament brutalement. On a la peur de l'effet de sevrage. Donc voilà, on est en fait finalement en tant que médecin, on est aussi un petit peu dans l'impasse. Je pense que moi je suis même demandeur de contrôle plus régulier. Ça ne me dérangerait pas du tout que le médecin de la Sécu m'appelle pour me prévenir qu'un patient, ça fait trop longtemps qu'il est sous morphinique. Ça me dérangerait pas du tout que, à l'instar du Subutex par exemple, les morphiniques soient délivré à une seule et même pharmacie pour qu'il y ait vraiment un contrôle des doses que les patients reçoivent, quoi.
Ça veut dire qu'il faut le traiter en fait comme parce que le Subutex c'est un substitut de drogue. Donc est-ce qu'il faudrait traiter les opioïdes de la même manière selon vous, Théophile?
Je sais pas, vous avez un addictologue à vos côtés. Pour moi en tout cas, ça reste quand même des médicaments avec une accoutumance et des effets importants. Et du coup, oui, ça peut tout à fait. De toute façon, ça a des usages détournés en tant que drogue. Hein,
et merci beaucoup pour ce témoignage, Théophile. Dominique Martin, vous, de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Est-ce qu'il faudrait les mettre au fond dans la même catégorie, en tout cas avec les mêmes, alors pas au niveau de l'usage, on a bien compris ça, mais au moins avec les mêmes restrictions, y compris, c'est ce que dit Théophile, pour protéger les médecins autant que les patients, en fait.
Alors, il y a des restrictions. Alors déjà, je voudrais dire que le médecin qu'on vient d'entendre connaît tout. Mm-hmm. Enfin, il a les outils
pour... Oui, mais on sent qu'il a peur et je comprends pourquoi il peut avoir peur.
J'entends, bien sûr, je l'entends, hein, mais il a les outils pour accompagner ses patients. Mm-hmm. Quand il dit qu'il ne faut pas arrêter brutalement, évidemment pas brutalement, mais par contre, diminuer, c'est bien la responsabilité. Je pense qu'il l'aperçoit parfaitement bien. Après, qu'il considère que c'est... techniquement, humainement compliqué, ça je l'entends, mais c'est bien de la responsabilité du médecin et du médecin généraliste en particulier que d'accompagner ses patients. Alors faut-il les encadrer ? Oui, bien sûr, et d'ailleurs ils sont encadrés. Les opiacés de niveau 2, donc les opiacés dits faibles, sont sur prescription obligatoire, donc et les opiacés de niveau 3, donc les opiacés les plus puissants, sont sur prescription obligatoire bien entendu, mais sur ordonnance sécurisée et avec des durées de prescription courtes et des systèmes de délivrance par fractionné. Donc il y a tout un système d'encadrement qui fait d'ailleurs, et c'est très important, c'est un des éléments qui fait qu'on n'est pas du tout dans la situation des États-Unis.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile de s'en procurer qu'on n'en est pas à ce niveau-là ?
C'est mieux encadré, et on encadre également d'ailleurs la publicité. La publicité auprès du grand public est interdite, la publicité auprès des professionnels de santé est encadrée, donc la prescription et la délivrance sont encadrées. Ce qui est important de développer pour prévenir les accidents, qu'on voit effectivement augmenter. Ce qui est important de faire, c'est de l'information, de l'accompagnement, de la surveillance individualisée. Et là, les médecins généralistes ont évidemment toute leur place. 85% des prescriptions d'opiacés le sont par des médecins généralistes. Donc c'est eux qui sont à la manœuvre. C'est vraiment leur responsabilité.
Est-ce qu'un sevrage, Delphine Mellerie, est aussi difficile quand on a été trop loin dans les opiacés que pour de la drogue ou pas ?
C'est oui, peut-être tout à fait compliqué. Alors, je ne suis pas addictologue, donc sur le plan des drogues, autre que, si on peut dire morphinique, que je ne pense pas être une drogue à la base, en tous les cas, puisque c'est un médicament. Oui, il peut être très compliqué, parce que, en effet, les patients peuvent avoir mal. Mmh. Et c'est une vraie difficulté d'accompagnement. Qu'est-ce que l'on fait quand un patient, quand on diminue son dosage et que des douleurs réapparaissent ? Et donc, autour de ça, là encore, on en vient à notre éducation générale. C'est qu'il n'y a pas que les médicaments pour calmer la douleur. Il y a aussi des approches qui peuvent être corporelles. Il y a de l'ostéopathie, il y a de la mésothérapie, il y a de l'acupuncture. Il y a des approches aussi qui sont ce qu'on appelle corticales, c'est-à-dire au niveau de notre cerveau pour en modifier les interactions autour de méditation, etc.
Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on va trop vite dans l'antalgique opioïde, c'est-à-dire donnez-moi quelque chose qui me soulage et boum, on donne un opioïde et puis comme ça, effectivement, ça marche.
Alors, on a beaucoup de pression. En tant que médecin, je pense que les médecins généralistes ont énormément de pression.
Pression des patients, vous voulez dire.
Énorme. Et que leur enseignement et le temps qu'ils ont à accorder à ces patients est trop court pour pouvoir leur expliquer que c'est pas la solution. En tous les cas, peut-être pas.
Et en même temps, quand on a mal, c'est vrai que c'est tellement compliqué.
C'est le point de départ, mais c'est pas le point d'arrivée.
Dominique Martin, vous vouliez intervenir ?
Oui, il est vraiment important de contextualiser les choses. Avant les années 2000, on prenait très mal en charge la douleur dans ce pays. Il y a eu des plans à partir de la fin des années 90, début des années 2000, qui ont permis de bien mieux prendre en charge la douleur. Et le fait qu'on prescrive plus d'opiacés est en soi une bonne nouvelle. C'est pas la prescription d'opiacés qui est une mauvaise nouvelle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des problématiques de mésusage, des problématiques éventuellement de surveillance qui doivent être faire l'objet d'une attention particulière, notamment des pouvoirs publics et évidemment de chaque médecin. Mais le fait qu'il y ait une utilisation des opiacés est en soi une bonne nouvelle puisque ça rentre dans une meilleure prise en charge de la douleur, en sachant qu'il y a bien d'autres techniques qui viennent d'être rappelées. Il n'y a pas que les médicaments et ça c'est un point majeur qu'il faut avoir en tête.
Et je voudrais qu'on écoute Delphine. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Bah, écoutez, moi je pousse un cri parce que je suis morphinomane. Mais je suis suivie par un centre antidouleur pour des douleurs neuropathiques terribles et sans la morphine, sans l'actiskénan, le skénan, l'oxycontin, etc., etc., je serais morte. Je suis très émue.
Mais je vous en prie, prenez votre temps, Delphine.
Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et maman d'un garçon de 12 ans. Et j'ai souffert le martyr pendant 2 mois et demi. après une opération de l'estomac qui s'est très bien passée, mais il y a eu un problème sur la table et j'ai un nerf sciatique qui a été écrasé. J'ai cru devenir littéralement folle et j'ai pensé à mettre fin à mes jours parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment tellement mal. Les mots sont impossibles. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Et 2 mois et demi après tout ça, j'ai été prise en charge par un centre antidouleur. Et on m'a pris dans une prise en charge globale, c'est-à-dire que j'ai eu de la morphine, mais j'ai eu un accompagnement psychologique. J'ai eu des gens en face de moi qui étaient parfaitement formés sur les problématiques de la douleur, que ce soit la problématique physiologique et la problématique psychologique. C'est-à-dire que j'ai été prise en charge dans mon ensemble, dans ma problématique familiale aussi. Mmh. Et je suis morphinomane aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et grâce à cette morphine que je prends tous les jours et dont je suis dépendant, parce que quand j'oublie, parce que je suis en train de faire quelque chose, de prendre ma morphine à une heure précise, j'ai un syndrome de manque. Donc de l'anxiété, de l'angoisse, des choses très désagréables. Donc je sais que j'ai besoin de cette drogue pour pouvoir avoir une vie, on va dire, quasi normale.
Et alors, en revanche, vous n'avez plus mal, Delphine, de ce que je comprends, en fait.
Je souffre malheureusement de douleurs qui sont persistantes. Mais sans la morphine, je ne serais pas capable d'avoir le discours que je vous tiens maintenant. Mmh. Je ne pourrais vous dire qu'une seule chose, j'ai mal et au secours. C'est ce que j'ai dit pendant 2 mois et demi. J'ai vraiment cherché toutes les solutions pour pouvoir mettre fin à mes jours, mais j'avais été opérée de l'estomac, donc avaler trop de médicaments, c'était impossible, puisque j'avais un estomac qui était trop petit. Me jeter par la fenêtre, je pouvais risquer de me rater. Et voilà, donc c'est quelque chose de terrible. Donc j'entends parler de cette dépendance, de il faut faire attention aux à la morphine, etc., etc. Les gens qui sont comme moi, ils ont un besoin terrible qu'on ne lâche pas et qu'on ne mette pas plus de barrières sur la prise de morphinique, parce que moi, ça m'a vraiment sauvé la vie.
Mais alors, en même temps, Delphine, pardon, et ce sera la dernière question, après je vous promets, je vous laisse.
Vous
racontez très bien les raisons et la douleur qui ont justifié que vous preniez ces médicaments-là. Ce que vous racontez très bien aussi, c'est que vous avez été parfaitement bien accompagnée.
Absolument.
Est-ce que cet accompagnement-là, aujourd'hui, que vous êtes capable d'identifier le fait que vous êtes morphinomane et que vous avez vraiment un état de manque, est-ce que ces gens sont toujours là autour de vous? Est-ce que cet entourage que vous aviez n'a pas été capable, n'est plus capable aujourd'hui de vous sortir de cette situation-là?
Alors, on m'a proposé des alternatives, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble. C'est vraiment une relation patient et médecin de confiance, parce que les gens qui voient tous les jours d'autres gens, des médecins qui voient tous les jours des gens qui vont mourir ou qui ont des douleurs tellement insupportables qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre des médicaments qui sont très lourds, eh ben ils vous proposent plein de choses. Il n'y a pas uniquement la morphine, hein. On va vous proposer de sortir de la morphine en essayant d'autres médicaments. Malheureusement, pour mon cas, ça ne marche pas. On a essayé d'aller vers quelque chose d'encore différent qui s'appelle la kétamine. Ça a généré chez moi un problème cardiaque. Donc, on a reculé. Moi, je suis suivie tous les mois, tous les 2 mois. Je rencontre toujours ce centre antidouleur. J'ai les mêmes personnes en face de moi. Mmh. Et quand j'ai des questions, j'ai toujours des réponses. Mmh. Et mon médecin traitant travaille aussi avec eux. Si lui, il a une question, il sait qu'il peut se tourner vers ces gens-là. C'est vraiment... On travaille ensemble. Ils vont vers moi, je vais vers eux. C'est comme ça qu'il faut travailler. Mais s'il vous plaît, pitié, pas plus de régulation sur ces médicaments-là. Moi, tous les 28 jours, je dois aller chez mon médecin traitant pour avoir un renouvellement de ma morphine. Donc, je suis suivie. Je suis connue. Je vais toujours dans la même pharmacie par habitude. Je ne dépasse pas les doses parce que je sais ce que ça implique de dépasser une dose, parce que c'est effectivement de la somnolence, un risque, on perd le fil de sa pensée, on a du mal à s'exprimer. Je n'ai que 50 ans, je viens juste de les avoir, mais j'ai perdu en capacité intellectuelle à cause de ces médicaments que je prends. J'accepte le jeu parce que ça me permet de vivre.
On entend ça, Delphine, et merci beaucoup, merci vraiment merci. Pour ce témoignage. Delphine Huillery, qu'est-ce qu'on peut dire à Delphine? Elle fait tout ce qu'il faut dans le bon sens.
Elle est parfaite. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je retiendrai de ce que j'ai aimé de ce témoignage, et je voudrais pas du tout que mes propos soient déformés. Il n'y a aucun jugement quand on parle de dépendance et de morphine. Mmh. On est là, et moi en tous les cas, en tant que médecin, à essayer de diminuer et de mettre en place une stratégie qui est la plus adaptée à chaque patient. Ça passe par les médicaments, exactement comme elle l'expliquait, ça n'est pas que les médicaments, et elle a parfaitement conscience des enjeux de l'augmentation de ces médicaments. À partir de ce moment-là, je crois qu'elle est au mieux prise en charge. Dans un centre antidouleur, elle est accompagnée, et c'est ce qui me semble être très important, c'est de ne pas rester seule quand on a ce type de problématique. Les centres antidouleurs sont là, les médecins comme moi installés en libéral aussi, on a des réseaux, on n'est pas là uniquement pour donner de la morphine, on est juste là pour essayer de façon raisonnée de mettre en place un traitement qui met le moins d'effets indésirables possible en participation avec le patient, plus des stratégies en effet alternatives qui sont fondamentales et un suivi psychologique entre autres.
Et là on entend Delphine, mais on se dit qu'il n'y a pas de porte de sortie en fait pour une patiente comme elle.
Mais je crois que sa porte de sortie, elle l'énonce comme telle, c'est qu'elle arrive à vivre. Il y a des fois on n'a pas de baguette magique, on n'est pas des magiciens, on a la solution la moins mauvaise dans une circonstance où en effet, il n'y a pas de solution idéale, il y a la moins mauvaise. Donc on n'a pas en effet toujours une solution pour toutes les douleurs, ce qui est toujours difficile à entendre pour des patients, et qu'il faut amener à ce raisonnement petit à petit. Et Delphine, je trouvais qu'elle est un exemple au contraire très positif de ce que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'elle peut vivre. Même si c'est pas parfait, on l'entend.
Dominique Martin.
Oui, et je voudrais rassurer Delphine, les contrôles qu'on met en place ne visent absolument pas à limiter l'accès des patients comme Delphine aux soins et aux antidouleurs. L'idée, évidemment, c'est une approche donc de population, santé publique, c'est limiter le mésusage, les abus, mieux surveiller, mais certainement pas de diminuer les possibilités d'accès à des patientes comme Delphine.
Question courte, réponse courte sur franceinter.fr. Le ministre de la Santé peut-il envisager un retour du Propofane ou du Diantalvic qui faisait moins de ravages que les opioïdes? Le Diantalvic était un opioïde, non?
C'était un opioïde. Ouais. Il faisait peut-être moins de ravages pour une simple raison, c'est qu'il était moins puissant que le tramadol. Un Diantalvic, quand on le prenait, on avait 2 à 3 mg de morphine. Un tramadol 50 mg, on est autour de 6 à 8 mg. Donc forcément, moins de puissance, moins d'effets indésirables et de dépendance.
Dominique Martin.
Et la réponse est non, puisque le Diantalvic est un médicament qui est géré au plan européen.
Ouais, qui a été interdit.
Qui a été interdit par une décision européenne. Ce sont les Anglais qui ont porté cette décision, qui a été d'ailleurs imposée à la France.
Vous nous rappelez pourquoi? D'ailleurs, moi j'en avais pris du Diantalvic à une période. Rappelez-nous pourquoi.
Essentiellement des problèmes de suicide avec le Diantalvic.
Le sumatriptan contre les migraines fait-il partie des opioïdes, nous demande aussi cette auditrice sur franceinter.fr.
Pour moi, le sumatriptan ne fait pas partie des opioïdes du tout. C'est un médicament pour les migraineux qui agit essentiellement sur des aspects vasculaires dans la douleur de la migraine.
Voici Monique sur l'appli de France Inter. Peut-on conduire lorsqu'on prend ce genre de médicament? On va le prendre à l'envers plutôt. Y a-t-il une restriction totale de conduite quand on prend ce genre de médicament ou pas?
Pas totale. Il y a un pictogramme sur conduite qui dit qu'on peut prendre ces médicaments mais sous surveillance médicale. Donc ce n'est pas une restriction absolue, mais il y a bien un pictogramme. Vous savez, il y a des pictogrammes sur la conduite automobile.
Donc attention, ça veut dire juste attention. Donc il faut être capable de s'évaluer soi-même, savoir si on a des problèmes de somnolence ou des choses comme
et
ça, s'auto-évaluer en fait.
Il faut un avis médical pour conduire.
Mais c'est vrai que on voit les effets indésirables sont en fait quelque chose de très pratique. C'est-à-dire qu'on prend le médicament et on voit ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il fait des effets antidouleurs? Est-ce qu'il fait des effets indésirables de somnolence? Auquel cas, on ne prend pas sa voiture, c'est une évidence.
Bonsoir Noël.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Oui, merci pour avoir pris mon témoignage. Alors moi, je suis infirmier depuis 30 ans. J'ai pu constater, en tout cas, que la plupart des morphiniques, en tout cas des opiacés que j'ai vu utiliser, étaient surtout de niveau 3. Je fais un bref rappel, comme l'ont déjà fait tous les participants à votre émission, qu'il y a des niveaux 1 en matière de douleur, des niveaux 2 et des niveaux 3. Au niveau 1, on trouve le paracétamol, qu'on connaît. Au niveau 2, un mélange de paracétamol
qui est pas un opiacé, hein, rappelons-le, le paracétamol.
Voilà.
Non, mais voilà, pour que dit les choses soient.
Dans les niveaux de douleur, on fonctionne comme ça, palier 1, palier 2, palier 3. En palier 2, on rappelle qu'il y a un mélange de paracétamol et d'opiacé. Tramadol, X-Prime, ce sont des molécules. Si vous regardez dedans la composition, vous verrez, il y a un mélange de paracétamol et de dérivés de l'opium. Et ensuite, les analgésiques purs, donc qui sont des opiacés purs. Et là, on est, comme disait une de vos interlocutrices tout à l'heure, personne n'est égaux devant les morphiniques. C'est pourquoi, au départ, il faudrait que l'utilisation de ces produits soit faite d'abord en milieu hospitalier. D'une façon, il y a des protocoles très précis que les anglo-saxons connaissent depuis très longtemps. Il faut savoir que pendant longtemps, on a utilisé les morphiniques pour les douleurs cancéreuses, pour les gens qui étaient en fin de vie, parce qu'on n'arrivait pas à des doses de dépendance, on n'arrivait pas à des doses, en tout cas moi en 30 ans, je n'en ai pas vu à domicile, parce que je fais du domicile exclusivement, je n'ai pas vu de gens avoir des dépressions respiratoires. Au jour d'aujourd'hui, ce que je crois, c'est que souvent la formation des infirmières, des médecins, et parfois même des pharmaciens, eh bien, on a des fois des manques. Et je pense que c'est parfois pour pallier à ces manques-là qu'on peut éviter justement les soucis qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui aux États-Unis, les problèmes qu'on a entendus. En France, heureusement pour nous, je crois qu'on n'en est pas là. Voilà.
Merci beaucoup Noël pour ce témoignage. La suggestion Noël, Delphine Huillerie, pardon, je vous voyais un peu tiquer. Essayez d'abord en milieu hospitalier pour être sûr de la réaction du patient.
Alors, sans vouloir être critique, je suis pas sûre que tous les médecins en milieu hospitalier soient ont aussi ou autant de connaissances que les médecins en ville. L'apprentissage de la douleur, il se fait à la faculté de médecine. Et donc, va être distribué à des médecins qui seront tant hospitaliers qu'en ville. Donc, ça ne change absolument, à mon sens, rien. On n'est pas moins sachant en ville qu'à l'hôpital sur le plan des opioïdes. Ensuite, je crois que, enfin, de mon point de vue, à chaque fois qu'on prend un opioïde, on n'est pas un toxico non plus. On prend un opioïde pour être soulagé. Que ces classes de thérapeutiques opioïdes, elles sont surtout là pour montrer un niveau de puissance des médicaments qui est plus ou moins fort. Il y a des règles du jeu, on doit les connaître en tant que médecin, et on doit les appliquer de façon à éviter qu'il y ait des mésusages ou qu'il y ait des excès de prise en charge. Après, il y a toujours des cas particuliers qui sont plus compliqués à prendre en charge, c'est certain. Mais globalement, la dépendance doit pas être un frein uniquement à finalement réduire notre vigilance sur la prise en charge de la douleur.
Vous qui connaissez vos patients, vous avez est-ce que vous êtes capable de jauger aussi au fond
J'espère.
Celui-là est pas fait pour ça. Donc ce sera peut-être alors, plus long, mais ce sera sans opioïdes.
Moi, j'initie beaucoup en effet les traitements. J'utilise peu les opioïdes parce qu'il faut savoir aussi que les opioïdes ne sont pas actifs sur tous les mécanismes de douleur. Que les douleurs névralgiques en particulier, sciatiques par exemple, ne sont pas sensibles aux opioïdes. En effet,
j'allais vous demander d'ailleurs, c'est des douleurs aiguës, des douleurs fortes, des douleurs, c'est n'importe quel type de douleur.
C'est pas une question d'intensité. L'intensité, on la cale après avec, en effet, l'importance du médicament. La première analyse, c'est de savoir quel mécanisme intrinsèque est responsable de la douleur. Est-ce que ce sont des névralgies, c'est-à-dire des nerfs qui sont touchés, ou est-ce que ce sont d'autres tissus? Quand ce sont des nerfs, comme la sciatique, le plus connu, eh bien, ces médicaments opioïdes n'ont aucun effet. Et au contraire, c'est bien même à ce moment-là que l'on peut avoir des effets beaucoup plus délétères. Et d'autres traitements qui n'ont rien à voir vont être beaucoup plus efficaces. Et je ferai un dernier point sur le tramadol, qui peut être aussi beaucoup plus prescrit parce que le Diantalvic est sorti en effet du marché, mais qui a une particularité par rapport aux autres opioïdes, à savoir qu'il est d'un côté opioïde et de l'autre côté il a une action sur ses douleurs névralgiques, ce qui n'est pas donné à tous les opioïdes.
Marie, bonsoir. Marie.
Allô.
Oui Marie, bonsoir. Soyez la bienvenue Marie.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, moi je me suis j'ai été pendant 25 ans une infirmière en libéral.
OK.
Et je me suis rendu compte que autant par rapport à certaines douleurs de personnes en phase terminale de cancer, par exemple, etc., il y a une dizaine d'années, on avait du mal à avoir des produits antidouleurs. Et là, depuis quelques années, avec
avec les opiacés?
Avec les opiacés, oui. Voilà. Et notamment concernant l'hospitalisation de jour, nous avions eu des ordonnances qui étaient un petit peu délirantes, avec du tramadol, de l'oxydonorme, du doliprane, etc. Et même des patchs de morphinique. Ça m'a rendu un petit peu folle, notamment par rapport à certains patients qui ne supportaient pas du tout cette prescription. Et aussi, puisqu'ils n'avaient aucune indication par rapport à ça. On les faisait sortir de l'hôpital sans indication. Et je me retrouvais avec des patients qui avaient des nausées, des vomissements, etc., qui étaient plus malades par rapport à leur traitement que par rapport à leur intervention. Voilà.
Merci beaucoup, Marie, pour votre témoignage. Il y a une question un peu subsidiaire, Delphine Mulry, c'est peut-être pour vous, sur l'appli de France Inter qui vient de haut, de la chirurgie ambulatoire et l'avenir, d'après ce que dit le ministre de la Santé notamment, y a-t-il plus de risques de surdose quand le patient est chez lui et livré à lui-même?
S'il a une bonne
comme
explication,
ce que dit Marie, une fois que l'ordonnance est dans la poche, qu'est-ce qu'on fait après?
Surtout que quand on sort d'intervention, alors pas toutes, hein, si les interventions sont devenues aussi ambulatoires, parce qu'a priori, on pouvait aussi parfois, enfin, on peut normalement laisser le patient rentrer chez lui, qu'on le fait pas dans n'importe quelle condition, qu'il est tout à fait clair pour pouvoir rentrer chez lui, avec des explications claires et nettes. Il y a a priori aucune problématique, et de toute façon derrière, il est suivi, on peut espérer, par son médecin généraliste pour faire le point.
Une toute dernière chose, Dominique Martin, parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça, des gens qui donnent leurs médicaments et qui disent, mais est-ce que c'est concerné, est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'on peut faire une liste extrêmement courte des médicaments, des opiacés qui sont les plus utilisés pour que les gens puissent savoir s'ils les ont dans leur pharmacie? C'était une question de Gilles sur l'appli de France Inter.
Alors, en catégorie, les opiacés dits faibles, les plus utilisés sont le tramadol en premier, mais aussi tous les médicaments de codéine associés en général à du paracétamol ou un autre produit. On a également de la poudre d'opium qui peut être utilisée. Ça, ce sont les principaux médicaments dits faibles, opiacés faibles, et les forts. On a essentiellement l'oxycodone et le fentanyl, et puis le sulfate de morphine, qui sont les médicaments les plus utilisés en termes de catégorie.
Vous avez 8 secondes, Delphine Mulry.
Juste pour dire que les médicaments les plus vendus quand même actuellement, c'est toujours le paracétamol, 500 millions de boîtes par an en France.
Voilà, et qui ne sont pas donc des opiacés, c'est bon à savoir aussi. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour vos nombreuses questions.